Les meeples sont de sortie. C'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique les amis, et oui, votre seule émission consacrée aux jeux de société, c'est la seule à la radio, ne cherchez pas ailleurs. D'ici quelques instants, je vais vous présenter un jeu, comme d'habitude, je vais vous en parler, je vous dirai comment on le met en place, comment on y joue et surtout ce que j'en pense. Au programme aujourd'hui, c'est Pirates de Maracaibo, et puis après on retrouvera Ludo comme tous les lundis pour le point sur les J. Il va s'intéresser aujourd'hui aux extensions.
C'est la pause déjeuner, Nat pour t'inviter à jouer. C'est ludique, encore plus de nouveautés.
Et au menu aujourd'hui, c'est Pirates de Maracaibo, un jeu d'Alexandre Pfister, Ryan Hendrickson et Ralph Biernert, illustré par Odysseas Stramodlou, un jeu initié ou expert accessible, édité par Super Meeple pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Alors ce jeu est indépendant de Maracaibo, même si vous allez aussi traverser la mer des Caraïbes avec votre navire pour rejoindre la ville de Maracaibo. Il faudra bien sûr collecter des trésors et un maximum de points de victoire pour l'emporter. Ça se joue en 3 manches, 3 traversée de la mer. Alors au niveau de la mise en place, fini le grand plateau de son aîné, désormais le plateau principal du jeu est composé de différentes cartes avec des tuiles îles. Chacune des grandes îles de la zone de jeu principale représente le marché des trois trésors, les perles, l'or et les émeraudes. Le nombre de cubes sur ces îles représente la valeur de chaque type de trésor à la fin de la partie. Le plateau final contient le golf, la ville de Maracaibo, ainsi que la piste de score et la piste exploration qui offre des bonus au fur et à mesure que vous avancerez sur le sentier de la jungle. Chaque joueur aura son plateau navire, que vous pourrez améliorer en cours de partie, et un plateau repère. Vous prenez des doublons, l'argent, c'est le nerf de la guerre, placez votre navire sur la zone de départ, ainsi que votre explorateur, voilà, et bien vous êtes prêt à jouer. Mais alors, comment on joue ? À votre tour, vous allez vous déplacer entre une et trois cartes, de façon adjacente. Chacune de ces cartes représente des espaces vers lesquels les navires peuvent naviguer et avec lesquels ils peuvent interagir. Par contre, vous n'avez pas le droit de rester dans la même colonne ni d'aller sur les îles, il faudra les contourner. Il y a trois types de cartes. Les cartes développement, qui offrent des bonus immédiats, permanents ou en fin de partie aux joueurs qui les acquièrent. Toutes les cartes développement peuvent être obtenues en payant un coût et peuvent également attribuer des points de fin de partie ou des revenus pour plus tard en fin de manche. Il est possible d'ignorer la carte et dans ce cas, vous gagnez 5 doublons. Autre type de carte que l'on retrouve dans l'océan, les cartes résidence. Alors ces cartes coûtent cher, mais vous permettent de placer un marqueur dessus, vous offrant un gros bonus de score de fin de partie. Enfin, les dernières cartes sont les cartes lieu. Elles représentent différents endroits des Caraïbes où les pirates peuvent s'arrêter pour améliorer leur navire, peuvent contenir aussi des marchés noirs et proposent différentes actions comme les raids. Alors quand on fait un raid, on va le lancer 3D qui représente la couleur des 3 trésors. On va en choisir un. Si je fais un 5, ça équivaut à 5 sabres. Ça tombe bien, c'est ce qu'il me faut pour piller un trésor d'une des îles. Si c'est un 5 vert, je prends un cube vert, les émeraudes. Ces trésors, je les place sur mon plateau repère. Ils pourront par la suite être enterré pour gagner encore plus de bonus et surtout des points de victoire en fin de partie. Sachant qu'en améliorant votre navire, vous pouvez avoir déjà des sabres. Les sabres servent à gagner des points de victoire et des doublons également. Une des autres actions possibles des cartes lieux, c'est de partir en exploration. En déplaçant votre explorateur, vous allez gagner des bonus. Sur les cartes lieux, il y a pas mal d'actions comme piocher une quête, qui si elles sont réalisées, vous donneront aussi des points à la fin du jeu. La manche s'arrête dès que l'un des joueurs atteint Maracaibo. Ensuite, on fait le décompte des points, puis nos navires repartent dans la zone de départ, sauf si c'était la dernière manche. Et là, d'autres points seront marqués, mais je vous laisserai voir tout ça, car il y a pas mal de choses à prendre en compte. Ce que je pense de Pirates de Maracaibo, c'est un jeu profond avec diverses stratégies possibles. Pour l'emporter, vous n'aurez aucun problème, même si vous n'avez jamais joué à Maracaibo, car il est beaucoup plus accessible. J'ai beaucoup aimé cette navigation sur les cartes. D'ailleurs, vous avez une très grosse rejouabilité, car vous n'utilisez pas toutes les cartes, et qu'il y a donc plusieurs schémas de mise en place possibles. Ne négligez pas l'amélioration de votre navire, et notamment la figure de proue. Enfin, c'est une course, puisque la manche s'arrête dès que l'un des joueurs atteint Maracaibo. Mais bon, si vous allez trop vite, moins d'améliorations aussi, et moins de cartes. Bref, c'est rapide à jouer, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Voilà, ça s'appelle Pirates de Maracaibo. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Ludo pour le point sur les J. Il va nous parler des extensions. À quel moment s'y intéresser ? Il vous dit tout dans un instant, c'est juste après Santa avec Recommence-moi.
C'est la pause du midi, il te donne son avis. C'est ludique, c'est ludique, c'est le point sur les J.
Et le point sur les J, c'est bien sûr tous les lundis avec Ludo. Salut Ludo.
Salut Matt, bonjour à toutes et à tous.
Alors aujourd'hui on va parler d'extensions, à quel moment s'y intéresser?
Oh oui, on va parler des extensions de jeu et non pas des extensions capillaires.
Ah non,
je te vois venir,
bien sûr.
Alors du coup une extension, c'est tout simplement un jeu qui va avoir un apport ludique à un autre jeu et par définition qui nécessite le jeu de base pour être joué.
Oui.
Alors en 2023, le site internet américain BGG a recensé 2047 sorties d'extensions sur le marché du jeu de société international. Alors il y a de la réédition là-dedans, je ne suis pas rentré dans le détail,
oui.
Mais oui, plus de 2000 jeux en fait d'extensions. Alors, bon, après il y a extensions et extensions bien sûr,
oui.
On ne peut pas non plus comparer toutes les extensions entre elles. Mais avant de s'interroger, Matt, sur l'intérêt d'acheter une extension de jeu, on peut déjà se demander... Qu'est-ce que ça rapporte ludiquement, de manière concrète, une extension?
Oui.
Alors, j'ai fait une petite liste non exhaustive de ce que peut rapporter donc une extension. Alors, on a par exemple du matériel supplémentaire pour varier les parties.
Ouais.
Alors, ça peut être des pions, des cartes, des plateaux, des scénarios.
Mm-hmm.
Ça peut être l'ajout d'un ou plusieurs joueurs avec leur matériel et des modifications de règles si besoin. Ça peut être aussi des nouvelles mécaniques de jeu qui vont venir enrichir l'expérience.
Ouais.
Une nouvelle façon de jouer, je parle par là de transformer par exemple un jeu compétitif en jeu coopératif ou vice-versa.
Mmh.
Ça peut être aussi, et ça on en a vu beaucoup, maintenant c'est intégré directement dedans, mais l'apport d'un mode solo,
oui.
D'un mode deux joueurs. Et ça peut être aussi du matériel supplémentaire, mais là pour le confort des joueurs. Ça peut être une tour à dés, ça peut être un tapis de jeu, un tapis pour lancer les dés, etc. etc. ou du matériel, on va dire, par exemple, issu du financement participatif qui va venir embellir, en fait, notre jeu sans changer grand-chose au cœur du jeu.
Ok.
Alors, parfois, une extension, ça apporte plusieurs choses comme ça. Hein, c'est pas forcément une à la fois. Et parfois, ça rapporte quelques petites cartes ou juste un ou deux dés. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on peut pas vraiment toujours comparer une extension avec une autre.
Mais non.
C'est toujours un peu compliqué.
Surtout que certaines extensions, Ludo, je te coupe, mais certaines extensions, aujourd'hui, on appelle ça des boosters. Hein, c'est juste une...
Exactement.
Voilà.
Dans le jeu de cartes, ce sont effectivement à chaque fois des cartes supplémentaires et ce sont des petites cartes, des petits boosters. Et souvent, on a ça dans les jeux de cartes à collectionner, mais aussi dans les jeux de cartes comme Sea Salt and Pepper,
oui,
par exemple,
ouais.
Où l'extension était seulement quelques petites cartes. Mmh. En plus, format booster, ils avaient joué le jeu jusqu'au bout pour que ça ressemble un peu aussi au format et à la tête des jeux comme Magic ou maintenant Altered.
Oui.
Alors pourquoi un éditeur va choisir de sortir une extension de jeu? Alors il y a plusieurs raisons à ça, et parfois même des raisons dès la sortie du jeu de base dans le commerce, parfois ça n'attend pas.
D'accord. Alors,
par exemple, pour le jeu Colt Express, qui
oui.
est sorti en 2014
ouais.
chez Ludonote,
oui.
L'auteur Christophe Rimbaud, dans un interview, avec aussi l'éditeur d'ailleurs, Cédric Lefebvre, avait expliqué que le jeu de base avait été découpé parce qu'il était vraiment trop important quand il avait été présenté à l'éditeur et que ils en avaient sorti un jeu de base et ils en avaient sorti ensuite des extensions, ce qui a permis de sortir assez rapidement d'ailleurs, du coup, en 2015, l'année d'après, Chevaux et Diligence, pardon,
mmh.
en 2016, Marshall et Prisonniers, et en 2018, tout ce qui est les bandits, là, avec tous les personnages, toutes les extensions qui concernaient les personnages, des ajouts supplémentaires. Donc là, on voit bien que là, les extensions, la stratégie des extensions était déjà définie à la sortie du jeu de base.
C'est ça, on a envie de faire toute une gamme sur ce jeu.
Exactement, puis en plus là, pour le coup, avec Colt Express, le succès planétaire du jeu, grâce à ses multiples prix ludiques, ont facilité la sortie régulière des extensions.
C'est ça.
Parce que en fait, le jeu est très bien, on l'achète pas au début, après on voit qu'il y a des extensions, ça peut être aussi synonyme de se dire, s'il y a des extensions, donc c'est l'effet l'œuf ou la poule, s'il y a des extensions, c'est que le jeu marche bien, ou le jeu marche bien, donc il y a des extensions.
Parce que si le jeu ne marche pas assez bien, l'éditeur ne va pas sortir d'extensions.
On va le voir tout à l'heure que si
D'accord.
c'est possible.
Okay.
Parce qu'en fait, même si les extensions ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus rentable pour les éditeurs, pourquoi ? Parce que ça se vend beaucoup moins, forcément,
que la boîte,
extensions. Ouais. Mais ça permet parfois de redonner un souffle nouveau quelques années après pour justement relancer le jeu.
D'accord.
Alors, sauf pour certains qui sont presque des jeux à eux seuls, on y reviendra tout à l'heure, mais chez Days of Wonder, ils ont bien compris le système de l'extension. L'exemple donc de ce que je viens de te dire, c'est Abyss chez Bombix.
Ouais.
Parce que l'expansion Kraken est arrivée rapidement l'année qui a suivi la sortie du jeu, c'est-à-dire en 2015. Mm-hmm. Mais la seconde extension Léviathan 2018 a permis de remettre dans les têtes un jeu qui n'avait pas quitté les rayons, mais qui devait sûrement s'essouffler un petit peu au niveau des ventes. Donc on a la possibilité aussi avec une extension, comme je t'ai dit, ça rapporte pas grand-chose, mais c'est aussi moins coûteux pour l'éditeur.
Bien sûr. Ouais.
Donc c'est possible aussi parfois de dire « regardez là, je rajoute un petit truc sympa au jeu, vous n'avez pas le jeu de base ?»« Oh, bah achetez le jeu de base et vous pourrez bénéficier de l'extension. » Alors, il arrive aussi qu'un éditeur pense à sortir une extension pour sauver un jeu de base, sorti sous les radars et qui n'atteignait pas ses espérances économiques.
Oui.
Alors, j'ai beaucoup d'exemples de tentatives, mais comme j'ai pas les chiffres réels, je préfère garder ces exemples sur moi, tu vois.
D'accord.
Parce que bon, c'est souvent des jeux qui sont... Enfin, tu vois, qu'on ratait en fait leur entrée, enfin leur sortie, leur entrée ou leur sortie. D'ailleurs, ils ont tout raté.
D'accord.
Mais comme j'ai pas trop envie de m'en remettre encore des gens à dos, bon voilà. Donc, du coup, on sort une extension. Et là, tu te dis, mais c'est idiot. On va pas sortir une extension d'un jeu qui a pas marché. Voilà.
Certains te diront, on sort l'extension parce qu'il manquait ça dans le jeu.
Oui, c'est ça. Donc, du coup, c'était dire que le jeu à la base n'était pas réellement complet.
Ouais.
Qui est un peu dommage quand on sort un jeu, voilà, ça c'est un peu dommage. Mais bon, quoi qu'il en soit, on peut pas en vouloir aux éditeurs de continuer à nourrir la poule aux œufs d'or, comme on dit, tant qu'ils peuvent le faire. Mais il faut faire attention, parce qu'avec l'extension de trop ou le matériel de trop, eh ben ça peut avoir un effet contre-productif sur les ventes et l'intérêt des joueurs. Moi, personnellement, ça a été le cas avec Colt Express.
D'accord.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai senti, tu vois, un peu comme à la fin d'un repas, tu sais, de Noël, là, tu sais, où tu sens que... tu t'es resservi un peu trop, et puis t'avais pas compris qu'il y avait un deuxième plat qui arrivait, tu vois, tu commences à avoir les yeux un peu jaunes. Bon, voilà, donc pas terrible. Et moi, Colt Express, ça m'a fait ça.
D'accord, ok.
Certains jeux ont quand même réussi. Le pari fou de créer un effet de gamme fort, hein, comme Formula D chez Asmodée,
ouais.
Avec ni plus ni moins que 32 extensions de circuits sorties entre 91 et 2015.
D'accord.
Ou, et j'en parlais tout à l'heure, nos amis de Devil Wonder avec les Aventuriers du Rail.
Ah bah forcément.
38 extensions, plateaux et matériel particulier en 20 ans. Et avec la 39e qui est sortie cet été, en 2024, qui permet de jouer en Corée et en Ibérie. Alors tu vas me dire 38 extensions, oui, dans l'eau, il y en a qui sont des extensions, mais un peu stand-alone. C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu le matériel de base un peu à l'intérieur. J'ai un peu mis tout dans le même train, mais bon, voilà, c'est comme ça.
D'accord.
Alors, on peut se penser aussi dernièrement sur le phénomène Villainous, chez Ravensburger, qui nous permet de se faire s'affronter, tu sais, des vilains de l'univers étendu de Disney entre eux. Il y a une nouvelle boîte de base là avec quelques petites règles un peu plus simplifiées, plus familiales qui sort là, hein, qui sort bientôt, qui est déjà à peine sorti. Et puis, il y a eu déjà beaucoup de personnages additifs dans le jeu.
Hein.
Et tout est compatible. Et là, on peut parfois même jouer qu'à deux avec une boîte. Enfin bon, bref, tu vois, il suffit de récupérer quelques pions. Donc, on sent qu'il y a des effets de gamme. D'ailleurs, en parlant de gamme, pour Ravensburger, ils ont été encore plus loin, ils ont étendu encore plus leur univers avec les marques qui appartiennent à la souris la plus connue du monde, avec Marvel et Star Wars. Même s'il a été confirmé là assez récemment que la première franchise Marvel, il n'y aura plus de traduction en français,
c'est fini.
Apparemment ça ne devait pas très bien marcher. Par contre, pour les sabres laser et autres rayons intergalactiques venus des étoiles, là je pense que ça va dérouler encore un petit peu.
Star Wars est un petit peu plus compliqué que le Villainous classique.
Ça rajoute les vaisseaux, ça rajoute aussi peut-être un peu plus de corps au jeu. Quoi qu'il arrive, Villainous, c'est très bien jusqu'à 3 grands max, sauf la dernière boîte qui nous promet quand même de pouvoir jouer là pour le coup à 3 et à 4 sans aucun problème, sans trop de longueur, avec
D'accord.
des ajustements au niveau des règles. Alors, comme quoi, tu vois, quand c'est bien fait et que les jeux s'y prêtent, les extensions, ça fonctionne. Alors, après les effets de gamme de jeu, le terme extension est un peu modifié, mais il peut y avoir, comme on l'a vu, des petits modules, une nouvelle règle, un pion, un mode solo coopératif. Il y a aussi des extensions qui ressemblent à un jeu de base et qui ne vient pas rajouter quelque chose réellement, mais qui vient rallonger l'expérience de jeu.
Hein. D'accord.
Par exemple, la future extension du jeu Alice is Missing, qui va s'appeler Silent Fall, de Spencer Stark chez Ori Games, qui nous permet de mener l'enquête sur la disparition d'Alice avec des suspects différents, des lieux inexplorés, des relations inédites entre les joueurs et joueuses. Là, on a un vrai add-on, comme si on, on était dans les jeux vidéo. Mmh. On reprend notre jeu de base, on retélécharge des informations, et en fait, on va rejouer au jeu, mais avec, on va dire, peut-être un point de vue un peu différent, des nouveaux personnages, etc., tout en gardant, j'imagine, parce que je ne l'ai pas joué, les mêmes sensations de jeu, le même gameplay.
Ouais.
Donc, on a vu qu'il y avait quelques raisons pour qu'un éditeur sorte une extension à ce jeu, pour faire plaisir à sa fanbase, à redonner un coup de jeunisme au jeu de base ou à réduire ses frais de communication en reparlant du jeu original. Quoi qu'il en soit, c'est jamais, on a vu, pour faire fortune, sauf pour nos amis de Days of Wonder, on en a parlé aussi juste avant, parce qu'eux, ils ont bien compris hein, que les collectionneurs, dont je fais partie,
et
sur
oui.
Aventuriers du Rail, ça marche quand même pas mal.
Ah bah, très hein. bien.
Même s'il y a une marge sur une extension, et le prix en rapport au contenu sont souvent plus favorables, il y a le phénomène de l'entonnoir qui apparaît. Il n'y aura qu'un pourcentage des acheteurs du jeu de base qui seront intéressés, et ainsi de suite, extension après extension.
Ouais.
Bon, après, il est difficile pour nous, simples joueurs, de pouvoir quantifier l'apport financier ou même parfois ludique d'une extension d'un jeu. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Encore une fois, je dis toujours aux gens... testez-la, essayez de vous intéresser un peu plus, de savoir ce que ça rapporte. Alors, mes conseils pour vous intéresser aux extensions, si et seulement si, soit vous avez adoré un titre au point d'en avoir fait le tour et que vous en avez encore envie,
ouais.
soit vous êtes intéressé sur l'impact de l'extension dans le jeu de base, c'est-à-dire, ok, ça va changer des trucs à l'intérieur. On a Orléans, par exemple, hein, qui fait souvent ça.
Mmh.
Ça change des choses dedans. J'adore le concept, j'ai envie d'y aller.
Ouais.
Ou alors, comme moi, parfois, vous n'allez pas y jouer, mais vous avez envie de collectionner et d'être un peu complétiste et d'avoir tous les circuits de Formule D ou tous les circuits des Aventuriers du Rail. Et peut-être que ça le fera aussi avec les prochains hits, par exemple chez Days of Wonder encore. Ils vont nous avoir encore une fois. Alors, attention, pour terminer, rarement une extension vous fera aimer un jeu que vous n'avez pas apprécié. Sauf peut-être si la mécanique change radicalement, mais dans ces cas-là, est-ce qu'on peut appeler ça une extension ? La question se pose.
D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Ludo, de nous avoir éclairé sur les extensions. À quel moment donc s'y intéresser ? C'est quoi la dernière extension alors que tu as ?
Alors, la dernière extension que j'ai, je suis en train de regarder. Je crois que c'est. Et que je n'ai pas joué encore. Je crois que c'est Hit, la dernière extension donc, et qui a déjà encore un petit vin qui date. Déjà, Heavy Rain, qui nous permet de jouer sur deux nouveaux circuits et avec des petites règles sur la météo
oui.
qui changent un petit peu la façon de jouer, donc qui renouvellent le gameplay. Et puis, les Aventuriers du Rail, forcément, Iberi et...
Grand collectionneur des Aventuriers du Rail, Ludo.
Ouais, j'arrête pas. Ouais, c'est ouf.
Merci beaucoup Ludo et on se retrouve la semaine prochaine.
Exactement, avec encore un sujet hyper intéressant.
Et ça sera quel sujet ?
Alors il me semble que c'est les femmes dans le monde du jeu.
Oh oui, sujet très intéressant, effectivement.
Il y aura beaucoup à dire.
Allez, à lundi prochain, salut
bonne
Ludo.
Semaine.